Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Est-ce que Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer plusieurs de nos auditeurs aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, s'il y en a parmi vous qui ne savez pas ce que c'est la foi, je vous encourage à bien écouter l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui suite aux questions que voici. Est-ce qu'on vit dans la crainte quand on n'a pas la foi? Dans le siècle présent, comment est-ce qu'on peut recevoir les bénédictions de David qui était là plusieurs siècles avant Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut purifier son cœur? Est-ce qu'on avance par la foi quand on avance à l'aveuglette? Est-ce que Dieu est disposé à nous donner la foi? Est-ce que c'est pieux de ne pas vouloir mettre Dieu à l'épreuve? Comment pouvons-nous mettre Dieu à l'épreuve? Demeurez avec nous. La parole de Dieu va répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien écouter ce qu'il va nous enseigner. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous. On veut se concentrer sur toi, sur ta belle parole. Alors, aide-nous, dispose nos cœurs à bien écouter jusqu'à la fin de ton enseignement aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, on a besoin de mieux connaître ton nom, de mieux connaître ta parole. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le ministère prophétique d'Ésaïe a été clairement établi alors qu'il a prophétisé au sujet de la situation locale de son époque et que ses prophéties se sont accomplies. Cela prouvait la véracité de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avons vu que cette prophétie démontrait la bienveillance de Dieu et sa fidélité envers son peuple. Il était nécessaire que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, s'incarne pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Messie ne pouvait pas être un homme ordinaire, car il n'aurait pas pu donner sa vie en rançon pour des pécheurs. En effet, il aurait dû mourir pour ses propres péchés. Cependant, Jésus-Christ, incarné alors qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, était sans péché et il a pu se substituer à des pécheurs pour mourir à leur place. Jésus-Christ étant Dieu, il était maître du temps que le Dieu Trinitaire a créé. Il était donc possible que tous les croyants de toutes les époques soient identifiés à sa mort et à sa résurrection. Les croyants sont morts et ressuscités avec le Seigneur Jésus. La victoire sur le péché leur est acquise. C'est par la foi qu'ils peuvent se l'approprier afin qu'elle devienne une réalité dans leur vie. Si nous manquons de foi, c'est parce que nous négligeons l'étude de la parole, nous ne maintenons pas une relation personnelle intime avec le Seigneur et nous ne demandons pas à l'Esprit de nous éclairer alors que nous étudions la Bible. À la dernière émission, nous nous sommes penchés uniquement sur le verset 14 du chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Aujourd'hui, nous examinons tout le chapitre. Juda, le royaume du sud, était terrifié. En effet, il y avait une guerre entre Israël et Juda, et Israël s'était allié au roi de l'Assyrie. Alors qu'Akas inspectait l'aqueduc en vue de préparer la ville pour un siège, Dieu demande à Ésaïe et à son fils d'aller à la rencontre d'Akas et de transmettre au roi un message encourageant. Verset 3 à 9. Akas a refusé de demander un signe en sa faveur et Ésaïe a fait la prophétie du verset 14 que nous venons de lire. Cette prophétie est un signe pour Israël, verset 10 à 16. Du verset 17 au verset 25, Ésaïe annonce l'invasion de Juda par le roi d'Assyrie. Ce malheur est un jugement de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture du prophète Ésaïe chapitre 7, verset 1. Il arriva, du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Dans 2 Rois 16, verset 2, nous lisons, « Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. » La prophétie du chapitre 7 suit l'appel au ministère d'Ésaïe qui s'est produite l'année de la mort du roi Ozias. Son fils Jotham lui a succédé, et il a régné pendant 16 ans. Dans 2 Rois, chapitre 15, versets 32 à 34, nous lisons, la seconde année de Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérushua, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Tout comme son père Ozias, Jotham a été un bon roi. Par contre, Akaz, le fils de Jotham, a été un mauvais roi. Akaz a régné pendant 16 ans et il a été un très mauvais roi. Sous son règne, une guerre civile a éclaté. Israël a connu des temps de détresse. Dans 2 Rois, chapitre 16, versets 3 et 4, nous voyons comment méchant a été Akaz. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Akaz était un homme méchant. Il avait peur parce que Israël et la Syrie se sont alliés pour lui faire la guerre. Bien qu'au début les deux rois n'ont pas été vainqueurs, Akaz a d'excellentes raisons de croire qu'ils remporteront la victoire finale. Verset 2 d'Ésaïe chapitre 7. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Sans foi en Dieu, nous vivons dans la crainte. Akaz ne peut pas espérer que Dieu le bénisse, ni qu'il bénisse la nation. L'alliance entre Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, provoque donc la terreur en Juda. Auparavant, la Syrie et Israël avaient essayé de conquérir Juda, mais les deux nations avaient fait cavalier seul. Parce que les deux nations se sont maintenant alliées, Akaz pense qu'elles seront capables de prendre Jérusalem. Bien qu'Akaz soit un roi qui ne craint pas Dieu, celui-ci ne désire pas que Juda aille immédiatement en captivité. De notre étude des livres historiques, nous savons que Juda n'ira pas en captivité dans le royaume du Nord, mais que plusieurs années plus tard, Juda ira en captivité à Babylone. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jachob, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang, supérieur, sur la route du champ du Foulon. » Dieu ne veut pas livrer Juda à la captivité immédiatement. Il veut encourager le roi afin que celui-ci, sous le coup de l'affolement, ne négocie pas une alliance regrettable avec l'Égypte. Dieu demande donc à Ésaïe d'aller à la rencontre du roi Akaz. Nous observons quelques symboles intéressants dans ce verset. D'abord, Ésaïe doit rencontrer Akaz vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur. L'endroit où doit avoir lieu la rencontre entre Ésaïe, le roi, est symbolique. L'aqueduc fournit l'eau nécessaire à la survie de la population de Jérusalem. Les gens doivent venir à cet aqueduc afin de puiser de l'eau pour étancher leur soif. Cette eau se déversait dans un étang ou une piscine à la sortie de l'aqueduc. L'eau ne pouvait pas être puisée alors qu'elle circulait dans l'aqueduc même. C'est en Christ Jésus que nous recevons les bénédictions de la maison de David. Cet aqueduc qui se déverse dans un étang symbolise le fait que nous n'obtenons pas de bénédictions de la maison de David, mais nous les obtenons au bout de la lignée de David, de celui qui est une eau vivifiante. Nous les obtenons du Seigneur Jésus-Christ, l'eau vivifiante qui descend de David. De plus, Ésaïe doit rencontrer le roi à l'étang supérieur. Le mot hébreu traduit « étang » est « berekash ». Barak, la racine de ce mot, signifie bénir. Je peux vous assurer que dans ce pays, un étang d'eau est une bénédiction. Le mot berakash est aussi utilisé dans le psaume 84, les versets 6 et 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est le dernier mot du verset, et il est traduit « bénédiction ». Le mot est « berakash », est toujours traduit « bénédiction », sauf dans Ésaïe chapitre 7, verset 3, où le mot « étang ou piscine » est le sens évident voulu par le contexte. Les bénédictions reçues en Jésus-Christ proviennent du Dieu Très-Haut. Notez que le texte utilise l'expression « étang supérieur ». Le mot hébreu « Elium » traduit « supérieur » dans ce verset est aussi utilisé dans l'expression « Dieu Très-Haut »,« El Elium ». Par exemple, Genèse 14, verset 18 utilise ce mot lorsqu'Abraham et Melchisédek se sont rencontrés. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Les bénédictions du Dieu Très-Haut ont été données à l'extrémité de l'aqueduc, la lignée de David, alors que Jésus est venu dans le monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sur la route du champ du foulon, le mot hébreu « Messila » signifie une route rehaussée. La route était élevée au-dessus du champ de foulon afin d'éviter aux piétons de se salir les pieds en traversant le champ. Le proverbe 16, verset 17, nous suggère une application spirituelle pour la route du champ de foulon. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Proverbe 16, verset 17. Cette route est le chemin de la sainteté. Ésaïe utilisera cette image au chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ce symbole réfère à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, soit le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 84, verset 6 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, c'est-à-dire « Bénis soient ceux qui ont celui qui est le chemin, la vérité et la vie. » Pour être purifié, il faut venir à Jésus-Christ. Notez que la rencontre s'est faite au champ du foulon. Le champ du foulon était un endroit où les gens allaient faire leur lessive. L'application est simple. Si nous désirons purifier notre cœur, nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. Ce n'est pas par hasard que Dieu a demandé à Ésaïe de rencontrer le roi Akaz sur cette route. L'application spirituelle que nous pouvons en faire est merveilleuse. Dieu demande à Ésaïe d'amener son fils Shéar-Jachub avec lui. Ce nom signifie « un reste reviendra ». Un reste du peuple de Dieu lui est toujours demeuré fidèle. Si vous trouvez ce nom étrange, attendez de voir celui du deuxième fils au chapitre 8. Pour l'instant, lisons Ésaïe chapitre 7, versets 4 à 9. Et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme point devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsen et de la Syrie et du fils de Ramalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. car Damas est la tête de la Syrie et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le but de ce message est de dire à Akaz qu'il n'a pas besoin de craindre ses deux adversaires qui se sont alliés contre lui. Dieu a décidé que leur projet échouerait. Cependant, comment Akaz peut-il savoir que ce sera le cas? Akaz est un sceptique et il n'a pas de foi en Dieu. Alors, comment Dieu peut-il démontrer à Akaz qu'Ésaïe dit la vérité? La foi, ce n'est pas s'avancer à l'aveuglette. Dieu ne nous demande jamais de croire quelque chose sans nous donner un fondement pour notre foi. La foi, ce n'est pas s'avancer à l'aveuglette et dire « Je fais confiance à Dieu ». Il est insensé d'avancer à tâtons dans notre vie chrétienne. Dieu ne nous demande jamais de faire cela. Par exemple, en ce qui concerne notre salut, nous n'offrons pas d'agneau en sacrifice pour nos péchés. Notre foi repose sur un fait historique, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Fils de Dieu. Dieu ne nous demande jamais de plonger dans les ténèbres. Il nous demande de croire et de faire confiance à quelque chose qui repose sur un fondement solide. Et il y a une seule fondation. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Dieu se laissera trouver par une personne qui désire sincèrement le connaître et il lui donnera une foi salvatrice. Les gens qui affirment ne pas pouvoir croire ne sont pas honnêtes. Si une personne désire vraiment connaître Dieu et qu'elle se détourne de ses péchés et vient à Jésus-Christ, Dieu se révélera à elle. En fait, de nombreuses personnes ne prennent pas Dieu au sérieux. Akaz ne croyait pas Dieu et ne lui faisait absolument pas confiance. Il ne devait même pas croire que Dieu voulait ou pouvait l'aider. Écoutons la suite de l'entretien entre Ésaïe et le roi. Lisons ensemble les versets 10 et 11. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Dieu est disposé à nous donner la foi. » Dieu sait qu'Akaz n'a pas de foi, et il est disposé à lui en donner. Cependant, Akaz n'est pas intéressé à perdre de temps avec Dieu. De nombreuses personnes ont la même attitude aujourd'hui. Verset 12. Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Autrement dit, « Ésaïe, je n'ai pas de temps à perdre avec tes histoires. Dieu ne peut rien faire. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Ces paroles peuvent sembler pieuses, mais elles sont loin de l'être. Ce genre de langage fait vomir Dieu. Verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous laissiez encore celle de mon Dieu? » Permettez-moi de vous raconter une histoire. Un jour, une chrétienne enseignait l'école du dimanche et elle raconta la parabole du bon samaritain au jeune. Tout en racontant la parabole, elle décrivait l'atrocité de la scène avec moult détails. Elle expliqua comment le voyageur est tombé dans une embuscade, comment les voleurs l'ont battu et abandonné gisant dans son sang. Elle a parlé du sacrificateur et du pharisien et finalement du bon samaritain. Elle a voulu terminer sa leçon en demandant aux enfants ce qu'ils auraient fait. « Je l'aurais soigné pendant quelques jours, » dit une petite fille. « Je lui aurais donné une boîte de bonbons, » dit un garçon. La chrétienne a posé sa question à tous les élèves. Elle est arrivée finalement à une jeune fille qui avait un air effaré. « Que ferais-tu ? » lui a demandé l'enseignante. « Je crois que je vomirai, » répondit la jeune fille. L'enseignante avait dépeint une scène atroce et la jeune fille a donné une réponse honnête. Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve. Je pense que Dieu réagit de la même façon à notre hypocrisie pieuse. Mes amis, ne pensez pas que vous êtes pieux lorsque vous refusez de mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie, chapitre 3, verset 10. Je suis las d'entendre des personnes dire qu'elles vont aller de l'avant par la foi, mes amis. Attendez que Dieu pose un rocher ou un fondement solide sous vos pieds. Attendez des directives claires du Seigneur afin de ne pas vous ridiculiser et de ne pas discréditer l'œuvre de Dieu. Dieu a dit à ce roi qui ne lui faisait pas confiance, « Je ne te demande pas de croire mon message juste parce qu'Ésaïe te l'a transmis. Je veux mettre une fondation sous laquelle faire reposer ta foi. Je désire te donner un signe miraculeux afin que tu saches que le message vient de moi. » Cependant, Akaz a refusé de demander un signe à Dieu. Celui-ci va donc donner un signe, non à Akaz, mais à toute la maison de David. Et c'est là que nous lisons Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avons consacré toute la dernière émission à ce verset, et nous avons résumé ce qui a été dit au début de celle-ci. Je ne m'arrêterai donc pas à ce verset. Le ministère prophétique d'Ésaïe était établi, et le peuple savait que cette prophétie s'accomplirait. Le peuple savait que Dieu demeurerait fidèle, et cette prophétie serait une consolation pendant le temps de la captivité. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jésus-Christ a été élevé comme un pauvre paysan en Palestine. Ce régime était celui du peuple peu nanti. Verset 16. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Cette prophétie sera accomplie à l'époque du Messie, mais d'un point de vue humain, sa réalisation semblait peu probable à l'époque d'Akaz. Mes amis, vous avez vu aujourd'hui que Dieu a invité Akaz, un méchant roi, à le mettre à l'épreuve afin qu'il puisse croire qu'il le délivrerait de ses ennemis. Akaz a laissé passer une occasion pour Dieu de lui donner la foi. Nous avons vu que Dieu invite son peuple à le mettre à l'épreuve. Il l'a fait au temps du prophète Malachie, aujourd'hui. Si vous ne savez pas quoi croire au sujet de Dieu, je vous invite à le mettre à l'épreuve. Prenez une Bible ou un Nouveau Testament et lisez l'Évangile selon Jean. Demandez à Dieu de se faire connaître à vous alors que vous le lirez. Demandez-lui de parler à votre cœur. Je vous invite à le mettre à l'épreuve de cette façon. Prenez le temps de lire l'Évangile, et à chaque fois que vous prenez un moment pour lire, demandez à Dieu de vous éclairer. À la fin de l'Évangile, nous lisons, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 20, verset 21. Voilà le but de l'écrit, le but de la lettre de Jean, afin que vous puissiez croire en la personne de Jésus en tant que sauveur de votre existence. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant le prophète Ésaïe, chapitre 8.
Merci beaucoup, Régent. Tu as dit quelque chose qui me rappelle des souvenirs aujourd'hui. Tu as dit que la foi, ce n'est pas s'avancer à l'aveuglette et dire « je fais confiance à Dieu ». Et tu as ajouté que notre foi repose sur un fait historique, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Fils de Dieu. Et tu as mentionné aussi que Dieu ne nous demande jamais de plonger dans les ténèbres, mais qu'il nous demande de croire et de faire confiance à quelque chose qui repose sur un fondement solide, Comme ça nous est si bien dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 11, où Paul affirme que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mes amis, j'ai mentionné que ceci me rappelait des souvenirs. Ça me ramène en 1977, l'année de ma conversion. J'étais tellement heureuse de partager l'Évangile avec ma famille, mes amis, mes voisins, et bien sûr, avec l'homme que j'avais tant aimé pendant 3 ans. Mais quand j'ai annoncé la bonne nouvelle du salut à cet homme, il m'a répondu qu'il n'avait pas la foi, qu'il était incapable d'avoir ce qu'il appelait « blind faith » en anglais, c'est-à-dire une foi aveugle. À l'époque, je n'avais pas suffisamment de connaissances pour bien lui répondre. J'aurais tellement aimé pouvoir lui dire ce que Régent a ajouté après avoir mentionné le fondement de la foi qui est en Jésus-Christ. Vous en rappelez-vous? Il a dit que Dieu se laissera trouver par une personne qui désire sincèrement le connaître et il lui donnera une foi salvatrice. Et il a ajouté que les gens qui affirment ne pas pouvoir croire ne sont pas honnêtes. Et c'est exactement ce que mon ami disait. Il affirmait qu'il n'était pas capable de croire. Mes amis, si vous êtes de ceux qui disent ne pas avoir la foi, je vous encourage à réfléchir sur ce que Régent a dit aujourd'hui. Il a mentionné que si une personne désire vraiment connaître Dieu et qu'elle se détourne de ses péchés et vient à Jésus-Christ, eh bien Dieu se révélera à elle. Oh, mon ami, je t'invite à prendre Dieu au sérieux, aujourd'hui, en ce moment. Dieu est disposé à te donner la foi. D'après ce que Régent nous a enseigné aujourd'hui, c'est le péché qui nous empêche de croire. Détourne-toi de tes péchés et viens à Jésus. Il veut et il va se révéler à toi. Peu importe le genre de vie que tu as mené jusqu'à maintenant, tourne-toi vers Jésus. Ses bras, qui étaient allongés et cloués sur la croix il y a 2000 ans, sont encore ouverts aujourd'hui, mais ils ne sont plus cloués. Jésus est mort, il est ressuscité et il t'ouvre ses bras en ce moment pour t'accueillir dans sa présence pour l'éternité. Ne refuse pas son invitation. Le Seigneur t'aime. Il est mort sur la croix pour payer la dette qu'on avait envers Dieu pour nos péchés, la dette que tu as envers Dieu pour tes péchés. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle en ce moment même. Alors reçois ce beau cadeau, tout simplement, maintenant. Dis-lui, « Seigneur, je crois en toi. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. » Fais-le de tout ton cœur et il va t'entendre et il va t'exaucer. Aujourd'hui même, tu peux savoir qu'avant de mourir, tu vas être certain, certain que tu vas aller au ciel. Tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.